Chapitre 13. Un mort changerait-il sa peau? Le lendemain matin, le maître du coin du coin ne comprenait plus grand-chose à la crise par laquelle il avait passé la veille. Les raisons profondes de sa détresse lui échappaient maintenant. Il ne concevait plus pourquoi il avait tant redouté un éclaircissement public. Rencontrant Sébastien, par exemple, ou appelant le boulanger hors de sa boutique, il lui aurait dit « Voilà un imbécile de gendarme qui m'arrête comme vagabond. Expliquez-lui donc qui je suis. » Avec quel empressement l'autre aurait déféré à son désir. Oui, mais comme il se serait tordu les côtes la minute d'après. Un quart d'heure plus tard, de boutique en boutique, l'histoire aurait bondi comme une sauterelle. Et au village, ce n'est pas comme à la ville où l'on oublie vite. Au village, une anecdote à la vie dure. Elle se transmet, si elle est vraiment farce, d'une génération à l'autre, elle se condense en un proverbe ou en une sorte de légende. Les petits-enfants de Laurent, 50 ans plus tard, auraient entendu narrer l'aventure de leur aïeul. Un déguenillé qui fut arrêté comme vagabond sur son propre domaine. En repassant par toute la filière du raisonnement, Élie Mestru admettait qu'il avait eu raison d'éviter un éclat. Mais l'horrible angoisse d'âme, la vision mentale d'une vie gâchée, cela, c'était de l'exagération. Rien ne pressait pour le grand changement. Ce n'est pas à l'entrée de l'hiver qu'on chambarde sa maison. De petites réformes, oui, peut-être. À midi, il était morose. Fanélie apporta le café comme à l'ordinaire quand les domestiques furent partis. Élie Mestru tournait et retournait la tasse entre ses longs doigts osseux avant de la remplir. « Regardez-moi ce bol, » fit-il, les sourcils froncés. « Oh, on ne sait plus où boire, tant c'était bréché. »« Je pourrais le casser, » dit Fanélie avec son flegme cotonneux. « Je m'en charge, » grommela le maître. Alors, à la grande stupéfaction des deux spectateurs, il jeta le bol sur les dalles où quatre ou cinq tessons s'éparpillèrent. « Si je cassais aussi le mien, » demanda Laurent avec un rire jeune dans la voix. « J'allais te le dire. » Et le bol du fils suivit celui du père. Fanélie, béante, regardait ces deux insensés, tout son embonpoint gélatineux secoué d'émoi. « Faut-il continuer ?» dit Laurent, qui, de grand sang-froid, examinait une soucoupe. « Continuons !» dit le père gravement. Il alla au buffet, y prit quatre autres tasses, les lança parmi les débris, puis à l'évier, où les assiettes creuses dont on venait de se servir étaient empilées. « Il faut les laver avant de les casser, » ordonna-t-il de l'air de quelqu'un qui concerte la chose la plus raisonnable du monde. Fanélie s'était assise, sa poitrine ballante, son ventre arrondi sous le tablier bleu, ses genoux même avaient des secousses d'un rire à bouche fermée qui lui faisait trembler les joues et ses petits yeux à demi-clos pleuraient. « On dit bien, marmottait-elle, que les maîtres sont fous un jour par an. » Toute la vaisselle est bréchée, fendue, craquelée, tachée de brun, alla grossir le petit monticule de tessons. Les destructeurs y mettaient de la réflexion, d'ailleurs, et du choix. « Faut-il casser ce pot à confiture ?» demandait le père, balançant sur la paume de sa main la grossière faïence jaune tout éraillée. « Oui, » prononçait Laurent après y avoir plongé son nez. D'abord, il sent la graisse, et puis, ces morceaux d'émail qui tombent, ça donne l'appendicite. Ce plat, gardons-le pour le chat. La soupière sans anse. Ah oui, cassez-la, s'écria Fanélie. Je m'y brûle les mains 7 fois par semaine quand je la mets sur la table. Une soupière sans anse. A-t-on idée d'une ménagère assez idiote pour garder la soupière quand elle n'a plus d'anse? Fit Élie en lançant vers la cousine un coup d'œil qui lui parut féroce. « Cousin, cousin » cria-t-elle vraiment alarmée. Le ménage était si réduit qu'il n'y avait pas en définitive plus de 3 douzaines d'objets cassés sur le carreau, mais l'ensemble n'en produisait pas moins un assez bel effet. Le père et le fils se regardèrent, ils riaient comme des enfants. Élie semblait rajeunie. « Ce n'est pas tout de cassé, dit-il, il faut remplacer. Va chez Denisé et achète un service complet pour le déjeuner, pour le dîner, pour le café, etc. »« À Fleur ?» demanda Laurent. « Non, pas à Fleur. les fleurs, ce sera pour ton ménage à toi. Prends de la faïence blanche, solide. » Je ne serais pas étonnée, dit Fanelli, dont le triple menton tremblait non plus de rire mais d'énervement, je ne serais pas étonnée qu'on me mette aussi aux balayures. Ça viendra, dit Élie d'une voix étrange, dont elle n'avait jamais entendu la vibration de colère et de mépris. Car c'était d'une voix molle, hésitante, presque d'une voix de pauvre, qu'Élie parlait à l'ordinaire dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire d'une femme qui nous laisse croupir dans la saleté, dans la misère et le manque de tout, si bien qu'on en viendra à laper sa soupe dans un morceau d'écuelle ? Mais cousin, cousin, implora-t-elle de nouveau, il fallait le dire, je ne demande pas mieux. Ah, vous ne demandez pas mieux. Faites réparer l'évier, alors, il sent mauvais. Cette fois, Fanelli se rebiffa. « Les réparations, cria-t-elle, ça ne me regarde pas. Tenez votre cuisine propre, écurez les casseroles, raccommodez le linge. On ne peut plus, cousin, on ne peut plus. Regardez les essuie-mains, les serviettes, c'est des trous avec un petit peu de frange autour. Achetez-en alors, est-ce la besogne des hommes de rapetasser ? Et mes chemises, depuis 10 ans que j'en parle. Est-ce que j'ai une chemise convenable pour dimanche ? « Je m'en occuperai, cousin, vous aurez une chemise. Qu'est-ce qui vous prend pour l'amour du ciel ?»« Ce qui me prend, c'est que j'ai décidé une bonne fois d'en finir de vivre comme des cochons. »« Oh, cousin, cousin !» Fanelli s'écroula, la tête sur ses genoux, réduite à n'être qu'une boule qui tremblotait comme un petit tas de gelée hors de son moule. Laurent ne riait plus. La joie de gamin qu'il avait eue à casser des assiettes faisait place à l'inquiétude pour son père, à la commisération pour Fanelli. « Elle nous est fidèle, » essaya-t-il de dire. « Fidèle, fidèle à sa paresse, à ses bonnes aises, fidèle à nous rendre la risée du pays. Si j'ai perdu mon rang, si tu ne trouves pas une femme qui veuille mettre le pied chez nous, c'est sa fidélité, sa diablesse de fidélité qui en est cause. C'est notre faute aussi. » dit Laurent. Crois-tu que je ne le sache pas ? Crois-tu que ça ne fasse pas mal de changer de peau ? Je change de peau, j'ai besoin de crier comme quelqu'un qu'on écorche. Je crie après Fanelli, elle le mérite. Mais si tu crois que je ne souffre pas ? Il est fou, il est hermétiquement fou ! Gémit la pauvre cousine qui, même dans cette crise, ne pouvait s'empêcher de sortir un des longs mots de sa collection. Du regard et du geste, elle implorait Laurent. Elle s'essuyait les yeux, les joues, avec son tablier sale qui laissait sur l'épiderme des traînées noirâtres. Laurent était immobile, adossé au buffet, mais son père allait et venait, d'une muraille enfumée à l'autre, enjambant le tas de tessons à chaque trajet, poussant du pied une anse, un fragment égaré sur le carrelage. « Je vous dis que cet évier pue » cria-t-il encore. « C'était bien pire pendant l'été et vous n'avez rien dit !» gémit la cousine. C'est qu'on pouvait tenir ouverte la porte d'entrée. Mais en hiver, les odeurs gèlent. Attendez décembre, vous ne sentirez plus rien, poursuivit-elle, toujours cramponnée à son principe de non-intervention. « Je m'occuperai des réparations si vous le voulez, père, » dit Laurent. Toute la surexcitation du maître tomba à ce mot. « Des réparations ?» « Oui, mais tu sais ce que c'est. Tu fais creuser pour l'évier, il faut étayer la muraille. Tu étais la muraille, voilà les plafonds qui cèdent. Et on a des ouvriers partout, il faut ouvrir toutes les portes. » Laurent comprit et se tut. « Le mieux serait de bâtir tout à neuf. On y pensera au printemps, » reprit Élie Mestru. Puis il se tourna vers Fanelli. « Je vous ai brusqué, cousine. »« Ah oui, vous m'avez brusqué !» « Je ne méritais pas ça » fit-elle, la figure toujours enfoncée dans le tablier bleu. « Ne vous frottez donc pas avec ce chiffon sale » fit-il, sa colère mal apaisée, sa bizarre rancœur le saisissant de nouveau. « Je m'en irai quand vous voudrez, cousin, puisque je ne vous contente plus. » « C'est une bonne idée, » fit le maître. « Vous n'êtes pas sans rien, Fanelli, depuis tant d'années que je soigne votre argent. » Et je vous logerai gratuitement au petit moulin où il y a justement 2 chambres vides. Au besoin, je vous ferai une petite rente, disons 30 francs par mois. Ça est le logement. se sera tenu chez vous comme une bonbonnière. » Oui, cria-t-elle exaspérée, et dans votre bonbonnière à vous, je voudrais bien savoir qui voudra y venir. Tenir ménage là où il n'y a pas de ménage, faire la soupe sur un fourneau troué de rouille, laver du linge quand on n'a pas de linge, et voir rôder autour de soi un patron qui est comme un tigre du Bengale, vous me l'enverrez, votre ménagère, pour que je la renseigne. Voyons, voyons, cousine Fanélie, dit Laurent, calmez-vous. Il n'est pas question de vous renvoyer du jour au lendemain. Mon père désire mettre les choses sur un autre pied, c'est son droit. Ha ! Il veut changer de peau, cria-t-elle avec un rire moqueur. Un maure changera-t-il sa peau et un léopard ses moustaches ? Jamais ça ne s'est vu et ça ne se verra pas. Il y avait peut-être du vrai dans la tradition qui voulait que tous les Mestrus eussent un grain de folie. Le cœur de Laurent bondissait de joie et d'espérance. Une vision subite de l'avenir jetait un voile de beauté sur la mesquine laideur d'un massacre de vaisselle. Il aimait son père et l'admirait avec passion, malgré tout, malgré la scène un peu brutale et le langage malsonnant, tout comme on peut admirer un chêne dont l'écorce a des verrues et le feuillage des noix de Galles. Il lui semblait assister à un bouleversement de nature, à l'écroulement d'une montagne qui révèle tout à coup des sources cachées et des filons d'or. Pauvre misérable Limestru, si longtemps emboîté dans une gangue qui éclatait aujourd'hui sous un effort de souffrance et de volonté. Mais le résultat de l'explosion énorme semblait petit. On allait s'acheter un service de vaisselle. Hier, en causant avec Maître Marquis, dit Laurent, j'ai pris quelques renseignements sur les entrepreneurs. Tu as bien fait, dit son père, je peux mettre 30 000 francs sur une bâtisse. Fanélie, toujours sanglotante et reniflant, était montée dans sa chambre pour faire ses paquets. L'idée de vivre seule dans deux chambres, à ne rien faire qu'à ne manger ses rentes et à traîner ses savates, ne lui déplaisait pas, tout bien considéré. Une heure plus tard, comme le tombereau s'arrêtait devant la porte de la cuisine pour emporter les tessons, elle dit au domestique, d'un grand air de dignité douloureuse, qu'on l'avait chassée et qu'elle partait. Quant au souper, on le trouverait probablement au Guillaume Tell.